Le SIEC, le salon de l'immobilier et des espaces commerciaux, les 10 et 11 juin 2026 à Paris Expo, porte de Versailles, sur Radio Immo et Radio Territoria.
Vos radios préférées qui suivent le SIEC depuis deux jours, on continue en cette deuxième journée de SIEC tout au long de cet après-midi à recevoir les grands professionnels du secteur sur notre plateau. Parmi ces grands professionnels, il y a Adrien Lavessière, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du développement chez SNCF Retail et Connexion. SNCF Retail et Connexion, branche de SNCF Gare et Connexion, qui développe et commercialise l'offre commerciale présente dans les gares françaises, transformant ces lieux de passage en véritables espaces de vie, de services et de commerce, accueillant chaque année des millions de voyageurs. J'ai bon là, jusque-là ?
Jusque-là, c'est parfait.
Très bien, merci. SNCF Retail et Connexion, qui gère donc, je le disais, l'un des plus grands réseaux commerciaux de France. Comment les attentes des voyageurs consommateurs ont-elles évolué ces dernières années ?
Elles évoluent effectivement parce que déjà on a une tendance massive, hein, au-delà des gares, c'est une tendance à faire un maximum de choses en une unité de lieu. Et on le voit bien avec un smartphone, on veut faire un maximum de choses avec son smartphone. Dans une gare, c'est pareil, je veux faire un maximum de choses dans ma gare. Je veux manger.
Ouais.
Acheter un chargeur parce que j'ai oublié le mien, faire les courses pour rentrer le soir, me faire plaisir, faire un petit cadeau au petit dernier dont c'est l'anniversaire. Et donc en fait, elles n'ont pas forcément changé les attentes. Par contre, elles se concentrent dans cette unité de lieu. Donc notre job, c'est de capter ces besoins et de réussir à les faire rentrer dans cette gare qui est si pratique, puisqu'on est en plein développement de la mobilité. On a une croissance tous les ans de 3 à 4% des flux de voyageurs. Donc comment est-ce que ces 10 millions de voyageurs par jour disposent d'un maximum d'offres à proximité au sein de cette gare ? Après, les besoins, ils évoluent naturellement. On ne mange pas aujourd'hui comme on mangeait hier, comme on mangera demain. On ne s'habille pas comme on s'habillait hier et comme on s'habillera demain. Donc ça évolue. Donc il y a une dimension, c'est à peu près les mêmes besoins primaires, secondaires qu'on retrouve au même endroit. Et après, il y a des évolutions. Et on le voit bien, par exemple, sur la pause sucrée, avec des cycles de tendances qui sont extrêmement rapides. On a un raccourcissement de ces cycles. On l'a vu, il y a eu une grosse tendance du donuts, une grosse tendance du flan, du pastèque, des natas. Et donc une évolution, en fait, sur des monoproduits qui est extrêmement rapide. Et ça, pour de l'immobilier, c'est quand même un défi, parce que notre job à la base, nous, professionnels de l'immobilier, c'est de penser des temps longs sur des cycles de consommation qui se raccourcissent. Et donc, en fait, c'est là que ça devient rigolo, c'est de mettre des carrés dans des ronds et de trouver des solutions immobilières pour accompagner des raccourcissements de cycles de consommation. Et ça devient assez fascinant.
Ça veut dire quoi ? Qu'en fonction justement des tendances du moment, vous allez faire appel à tel type d'enseigne ou tel autre type d'enseigne pour enrichir l'expérience des usagers. Mais effectivement, avec le temps long, c'est un peu compliqué, non, quand même.
Ouais. Ça renvoie à deux capacités, à mon sens. La première, c'est celle du sourcing.
Ouais.
Donc c'est nous, notre job, et comme tous mes confrères également, c'est d'identifier ces tendances faibles, ces signaux faibles, ces tendances, et d'aller chercher la bonne enseigne qui fait du pastrami, la bonne enseigne qui se réapproprie la cuisine healthy. Quand il y a eu l'explosion des pokés, ça a été de faire le bon pari.
Mm-hmm.
Ça, c'est le premier élément, ça va être ce sourcing. Deuxième élément, c'est d'aller chercher un opérateur, un exploitant, un commerçant qui lui-même sache absorber ses cycles. Puisque quand on est sur un bail de 7 ou 10 ans, nous on n'est pas sur des 3, 6, 9 dans les gares, je vous passe les détails, mais ça va être d'aller chercher celui qui, à partir d'un monoproduit, le cas échéant, sait renouveler sa gamme pour suivre les besoins. Et on prend un Pierre Hermé, par exemple, que l'on a fait rentrer de longue date, qui a fait avec nous le pari du travel retail.
C'est vrai que ça fait longtemps qu'on
le voit
sur les gares. Ouais.
Et c'était un vrai pari quand il l'a fait. Il est rentré sur du macaron et on connaît la créativité et le professionnalisme d'une maison comme Pierre Hermé. Aujourd'hui, c'est encore une enseigne très présente parce qu'il y a eu cette capacité d'adaptation. J'ai cité Pierre Hermé, il y en aurait naturellement bien d'autres.
Est-ce que ça veut dire que le commerce en gare est en train de devenir un laboratoire des nouvelles tendances du retail ?
Alors, un laboratoire de tendances du retail, en partie. Il y a quelque chose qui est quand même évident, c'est qu'on est du travel retail, du commerce de flux. Et donc, si vous allez dans une gare, c'est que vous allez prendre un train, vraisemblablement.
Essentiellement, oui, c'est souvent le cas. Oui.
Parfois, on peut juste la traverser ou venir chercher
ou
quelque chose qu'on aime ou accompagner quelqu'un. Mais globalement, c'est lié au transport. Et donc, c'est quand même un élément majeur parce que ça veut dire qu'on n'a pas le même rapport à la digitalisation.
Oui.
Le commerce demeure en travel retail un commerce essentiellement physique. Ce qui est quand même la grande rupture avec l'alimentation de centre-ville qui a quand même beaucoup de livraisons à domicile, même si ça se développe en gare, c'est quand même particulièrement le cas en restauration de centre-ville. Le e-commerce pour le retail, pour le prêt-à-porter notamment, nous, on est préservé de ce fait-là parce qu'on aura toujours un flux physique. Et donc, par contre, quand on rentre dans une boutique physique, notamment en retail, en prêt-à-porter, en hygiène beauté, c'est l'expérience de la marque qui est importante. On ne fait plus du commerce aujourd'hui, comme on en faisait hier. Si j'ai une boutique physique, ça veut dire que je dois rentrer dans une marque et vivre la marque de manière immersive avec... C'est plus des vendeurs, c'est des ambassadeurs qui m'accueillent parce qu'on me vend non pas une tablette de chocolat, on me vend un univers, on me vend une ADN, on me vend finalement l'univers de la marque. Ça, c'est quelque chose qui change. Et en travel retail, qui a eu une montée en qualité, une montée en gamme, une montée en hospitality également assez forte, c'est un véritable pari pour chacune des marques d'avoir, en un temps extrêmement court, hein, puisqu'on a très peu de temps à consacrer au shopping en travel retail, hein, donc du coup, en un temps très court, faire rentrer le client dans notre univers.
Alors, vous l'avez dit, les gares accueillent des voyageurs qui viennent pour prendre un train ou pour accompagner d'autres voyageurs. Comment est-ce que vous utilisez la data et la connaissance des flux pour accompagner les enseignes dans leur choix d'implantation?
Ouais. La data, c'est nécessairement un défi du quotidien dont on s'est saisi chez Retail et Connexion. On est en train de le déployer. Et en fait, il doit nous permettre plusieurs éléments. Tout d'abord, de comprendre le fonctionnement de la gare. Une gare, et je prends la gare de Lyon par exemple, le hall 1, 2 ou 3 ne fonctionne pas de la même manière à 6h du matin, à 9h du matin, à midi, à 18h, à 21h. Donc il faut comprendre chaque zoning spécifique, son mode d'organisation, l'heure à laquelle il vit et quelle est la clientèle. Donc ça, on va pouvoir croiser de la donnée, par exemple de la donnée transactionnelle. Si je sais qu'à telle heure, on vend plutôt des chouquettes et à telle heure, plutôt des pains au chocolat, ça va nous permettre d'aider le commerçant dans la gestion de son stock. Savoir si j'en vends beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout, ça va nous permettre d'aider le commerçant dans le dimensionnement de son staff. Et savoir enfin si à cet endroit-là, on a plutôt tel ou tel type de clientèle, parce que plutôt business, parce que plutôt famille, parce que plutôt commuters, hein, domicile de travail, ça va nous permettre là aussi d'aider sur le packaging, d'aider sur le branding, enfin quelle est l'enseigne pertinente à tel ou tel endroit. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure où l'on vient capitaliser, que l'on vient capter de cette donnée de flux, données de transactions, données également de taux de transformation, on va pouvoir aider les enseignes dans leur implantation. Là, on en est encore au début de l'histoire dans cette valorisation de la data. Ça permet de savoir, d'avoir une connaissance. Et dessus, ce que l'on est en train de développer également, c'est de mettre une couche de prédictif. Donc, on fait tourner nos modèles pour savoir, dans 2 semaines, il va faire tel temps, on va avoir tant de trains avec combien de voyageurs, combien ça représente. Donc, si je croise la météo, le jour, l'heure, le nombre de personnes, on sait à peu près dire qu'est-ce qui va être vendu, dans quelle mesure, à quelle heure, et donc quel est le meilleur modèle d'exploitation que va pouvoir mettre le commerçant en face pour optimiser, hein, parce que derrière, on est tous sensibles à 2 éléments. Optimiser la satisfaction du client, j'ai ce que je cherche et c'est disponible, et optimiser le bas de page naturellement, puisque à l'arrivée, le bon sens commerçant fait qu'on regarde surtout cette ligne-là.
C'est passionnant, hein. C'est passionnant tout ce que vous nous racontez. C'est extrêmement intéressant de découvrir un petit peu, justement, d'entrer un petit peu dans les coulisses de tout cela. Alors, les projets de rénovation, de transformation des grandes gares, on va évoquer tout à l'heure, juste après vous, on va recevoir Altaria pour Grand Austerlitz, qui est un des gros chantiers du moment. Tous ces projets s'inscrivent souvent dans des opérations urbaines qui sont vraiment plus vastes. Quel rôle joue aujourd'hui le commerce dans la valorisation de ces quartiers de gare?
Oui. Le commerce, il joue un rôle très particulier là-dedans. Alors, Grand Austerlitz, et je laisserai Altaria en parler, c'est une opération à part parce qu'on n'inscrit pas la gare dans un quartier, c'est un quartier. Donc, c'est un nouveau quartier parisien qui est assez fascinant. Par contre, quand on rénove un quartier, je pense par exemple à la gare de Lyon. Hein. Vous prenez la rue de Bercy qui est en constante mutation. Vous prenez la gare de Toulouse que l'on a rénovée il y a peu et qui est aussi un cœur urbain en pleine transformation. Ou vous prenez Bordeaux hein, et nos amis d'Apsis sont en train de développer quand même une opération incroyable.
Ouais,
voilà.
Ouais, magnifique.
du coup, là, le commerce, il a plusieurs fonctions. Tout d'abord, c'est la porte d'entrée sur un territoire. Et donc, bah, si je vais à Toulouse, si je vais à Bordeaux, je suis content d'y retrouver des enseignes représentatives du savoir-faire local. Je prends aussi Lyon-Pardieu, où on a la chance d'avoir la mère Brasier en ce moment, d'avoir rentré un restaurant avec, avec le chef Viola. Donc des enseignes ou voisins, enfin des enseignes locales qui sont du cru, et donc j'arrive et d'emblée j'ai le savoir-faire local. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, ça va dans la satisfaction du voyageur. Notre voyageur, il arrive, il part de sa gare, il arrive dans sa gare, être accueilli et partir avec un commerce de qualité. Nous, dans l'expérience du voyage, le commerce en gare, c'est 20% de la satisfaction. 20% de la satisfaction du client. Ça veut dire que pour nous, c'est essentiel et ça fait partie du voyage. S'il arrive heureux, il a bu un bon café, il a mangé un bon croissant, bah, il arrive déjà dans des bonnes dispositions pour avoir l'expérience de la ville. Cette expérience de la ville, elle est importante et on y travaille au quotidien, y compris avec les mairies, les préfectures, pour travailler la sécurité sur les abords de la gare, pour travailler la propreté. Alors, naturellement, il reste du chemin et sans cesse, on peut faire mieux.
On voit bien les choses évoluer quand même.
On travaille énormément. La proximité, avant, il y avait la SNCF et la ville qui étaient contigues. Maintenant, on est poreux, on travaille de concert pour améliorer, autant que faire se peut, l'expérience de l'individu qui devient un client, un voyageur, qui devient ensuite un citoyen, un usager du service du trottoir public, et donc d'accompagner cet individu. Je pense que c'est ça la vraie transformation, notamment côté retail et connexion, c'est qu'on ne traite pas un flux de 10 millions de voyageurs chaque jour. On traite 10 millions d'individus et on essaye de comprendre le besoin et de comprendre son fonctionnement au fur et à mesure du temps et de l'espace pour l'accompagner au mieux dans l'ensemble de son parcours, dans le train, dans la gare et dans son territoire.
Alors fort de tout cela, Adrien, l'expert que vous êtes, quels seront vous les grands défis du commerce en gare si on se projette dans les 5 prochaines années?
Le défi, l'ancrage local. Et on le voit bien, il y a une tendance extrêmement forte qui est celle de bien manger en se réappropriant nos codes de la restauration, par exemple. Et je parle beaucoup de F&B parce que ça représente quand même un...
Mais c'est devenu quelque chose d'important dans les gares.
Quelque chose d'important. Nous, c'est 40% du chiffre d'affaires dans les gares. Et dans mon équipe de commercialisation, c'est l'essentiel de notre activité. Bien manger, alors c'est quand même, quand on parle de gastronomie à la française, on voit des tables, des nappes à carreaux et des chaises. Or, la restauration est de moins en moins assise. Donc en fait, comment est-ce qu'on se réapproprie les codes de la gastronomie française à emporter. Je parlais de la mère Brasier à Lyon-Pardieu. Oui. Là, on va ouvrir Groute la Tourte dans le. Donc, deux top chefs qui se sont associés pour se réapproprier justement la tourte, qui est quand même un savoir-faire de ma grand-mère que l'on a parfois un peu perdu, mais à emporter.
Ouais. En même temps, les choses peuvent changer. Vous l'avez dit tout à l'heure, les modes évoluent, les tendances évoluent. On peut revenir aussi, peut-être, et il y a peut-être cette tendance qui est en train de se dessiner à des tables. Vous avez tout cela aussi dans les gares.
Et on a tout cela dans les gares, et on le travaille également. Parce qu'effectivement, la différence avec les tables, c'est que dans les années 50, vous mangiez assis. Maintenant, on choisit manger assis. Donc, si on doit réinventer la restauration assise, le service à table en gare, cela veut dire qu'effectivement, il faut qu'on travaille surtout l'envie, les tendances. Pourquoi est-ce que tel ou tel viendrait manger assis? On l'a avec le train bleu, et en permanence, on continue de travailler avec l'opérateur sur le train bleu de gare de Lyon. On l'a, par exemple, dans le buffet de la gare de Limoges, où c'est un entrepreneur... fort en gueule, parce que c'est important, qui a des convictions et qui a su développer à Agen ou à Limoges, c'est le même dans les deux, et a su développer une approche qui permet de donner envie de manger assis. Donc là, j'ai parlé de l'ancrage. L'ancrage, c'est aussi le beurre que je mets dans mon croissant. C'est l'origine de mon café. Et cet ancrage, on peut parler, quand j'ai du café qui vient du 13e arrondissement ou du 5e arrondissement de Paris, c'est un café qui est ancré, qui a une histoire. Voilà, ça c'est important. Quand j'ai un beurre de Charente, j'ai intérêt à le dire. Donc ça, on travaille aussi avec les enseignes. On a des grandes enseignes très connues qui ne disent parfois pas assez d'où vient le produit. Et pourtant, le consommateur a envie de manger quelque chose qui a été fait par un producteur qui peut avoir un prénom, qui peut avoir été fait dans un village qui a un nom et qui peut être... à un endroit où je peux poser le doigt sur la carte et je sais exactement d'où ça vient. Première tendance. Deuxième tendance, la restauration thématique, c'est important. là aussi, on a une envie de manger ce que l'on cherche. Et bah, si vous arrivez dans une gare, vous arrivez avec deux enfants, etc., il y a toutes les chances que les trois, quatre familles qui composent la famille n'aient pas envie de manger la même chose. Et nous, on veut apporter ce quelque chose qui permet de correspondre. Et on l'a avec les enseignes de poké. Hein, la cuisine Elsie marche extrêmement bien. Là, on va ouvrir Will's Deli dans les semaines qui viennent à Gare de Lyon également, à côté de Groote La Tourte précisément. Donc, c'est plutôt la réappropriation de la street food new-yorkaise. Hein, un pastrami qui est délicieux d'ailleurs, je vous le recommande. C'est autant d'éléments qui sont justement qui apportent une satisfaction à chacun et qui apportent avant tout une émotion, parce que le commerce, c'est de l'émotion. C'est celui de la surprise, l'effet waouh. Ah, trop bien, je ne m'attendais pas à le voir ici. Ah, génial, il y a une nouvelle enseigne et j'ai envie d'aller goûter. Quand on va au dépôt légal et qu'on voit un éclair de génie, bon, bah, c'est un petit moment hyper sympa. Et quand on a envie de prendre une bière et qu'on va s'installer au Galia juste au-dessus, c'est un moment très sympa. Et quand je suis au fin fond de la Lozère, au Mont-Aubrac, et que je découvre un petit commerce multiservice qui vend un petit pâté de foie gras qui est fait à 5 km de l'endroit, c'est un moment sympa. Cet effet waouh, c'est pas ça le premier besoin du client. Lui, il a avant tout besoin de manger. Par contre, quand on peut apporter cette satisfaction, cette curiosité, cette surprise, à ce moment-là, c'est qu'on a fait notre boulot.
C'est passionnant, encore une fois, je le dis. Puis là, vous nous donnez faim en plus, Adrien. En une minute, pour terminer, je vous ai demandé de vous projeter, mais juste là, sur l'année 2026, vos objectifs imminents, là, sur la deuxième moitié de l'année.
Là, nous, on a des grosses opérations de commercialisation qu'on ne doit pas rater. On est en train de renouveler la galerie des fresques de la gare de Lyon. Ça nous occupe. C'est un endroit que les enseignes savent extrêmement intéressant. Hein. C'est un flux incroyable et c'est très qualitatif. Deuxième objectif que l'on a, c'est les circuits courts. En fait, on a 3000 gares en France. On est l'un des plus gros réseaux immobiliers qui puisse exister. On a 90% de la population à moins de 10 km d'une gare. C'est génial parce qu'à côté, on a des agriculteurs qui parfois ont des difficultés, des viticulteurs qui ont parfois des difficultés. On a pu parler des asperges ou des poireaux qui parfois étaient en surproduction. Eh bien, nous, on a des points de vente potentiellement. On a des mètres carrés. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est de lancer dans les tout prochains jours une plateforme où les producteurs locaux, les artisans locaux pourront cliquer directement dessus, réserver directement un emplacement dans une gare et peut-être venir tous les mercredis chaque semaine vendre directement leurs produits à leurs consommateurs. Les voyageurs qui sont aussi finalement ceux qui vivent le territoire et ceux qui font vivre nos agriculteurs et nos artisans locaux.
Merci beaucoup, Adrien Lavessière. Merci
à vous
d'être venu nous apporter votre expertise et votre éclairage sur ce commerce en gare aujourd'hui qui se développe véritablement et chacun de nous peut le constater en allant faire un petit tour en gare. Et merci à vous de continuer à nous suivre. Nous sommes au siècle encore tout au long de cet après-midi. Rendez-vous d'ici quelques minutes avec un nouvel invité.
Le SIEC, le salon de l'immobilier et des espaces commerciaux, les 10 et 11 juin 2026 à Paris Expo, porte de Versailles, sur Radio Immo et Radio Territoria.